Chapitre 8. Dans lequel le professeur et ses élèves jonglent avec les sextillons, les quintillons et autres multiples des milliards. Un quart d'heure plus tard, les visiteurs de la Hansa étaient réunis dans la salle commune et les dernières paroles prononcées par le professeur allaient avoir leur explication. Sur l'ordre du professeur, Ben Zoof avait enlevé divers objets déposés sur la table et fait place nette. Les pièces d'argent empruntées aux Juifs à Kabut furent déposées sur cette table suivant leur valeur. 2 piles de 20 pièces de 5 francs, une pile de 10 pièces de 2 francs et une pile de 20 pièces de 50 centimes. « Messieurs, dit Palmyrin Rosette, très satisfait de lui-même, puisque vous n'avez pas eu la prévoyance au moment du choc de sauver un mètre et un poids d'un kilogramme de l'ancien matériel terrestre, j'ai dû songer au moyen de remplacer ces deux objets qui me sont indispensables pour calculer l'attraction, la masse et la densité de ma comète. Cette phrase de début était un peu longue, et telle que l'a fait tout orateur sûr de lui et de l'effet qu'il va produire sur ses auditeurs. Ni le capitaine Servadac, ni le comte Timachef, ni le lieutenant Procope ne relevèrent le singulier reproche que leur adressait Palmyrin Rosette. Ils étaient faits à ses manières. « Messieurs, reprit le professeur, je me suis assuré tout d'abord que ces diverses pièces étaient presque neuves et n'avaient été ni usées ni rognées par ce juif. Elles sont donc dans les conditions voulues pour assurer à mon opération toute l'exactitude désirable. Et d'abord, je vais m'en servir pour obtenir très exactement la longueur du mètre terrestre. » Hector Servadac et ses compagnons avaient compris la pensée du professeur avant même qu'il eût achevé de l'exprimer. Quant à Ben Zoof, il regardait Palmyrin Rosette comme s'il eût regardé un prestidigitateur, s'apprêtant à faire des tours dans quelque échoppe de Montmartre. Voici sur quoi le professeur basait sa première opération, dont l'idée lui était venue soudain lorsqu'il entendit les pièces de monnaie résonner dans le tiroir d'Isaac Akabut. On sait que les pièces françaises sont décimales et forment toute la monnaie décimale qui peut exister entre un centime et un franc, soit 1, 2, 5, 10 centimes en cuivre, 20 centimes, 50 centimes, 1 franc, 2 francs, 5 francs en argent, 5, 10, 20, 50 et 100 francs en or. Donc, au-dessus du franc existent tous les multiples décimaux du franc, au-dessous, toutes les coupures décimales du franc, le franc et l'étalon. Or, et c'est sur ce point que le professeur Palmyrin Rosette insista tout d'abord, ces diverses pièces de monnaie sont exactement calibrées, et leur diamètre, rigoureusement déterminé par la loi, l'est aussi dans la fabrication. Ainsi, pour ne parler que des pièces de 5 francs, de 2 francs et de 50 centimes en argent, les premières ont un diamètre de 37 mm, les secondes un diamètre de 27 mm et les troisièmes un diamètre de 18 mm. N'était-il donc pas possible, en juxtaposant un certain nombre de ces pièces de valeurs différentes, d'obtenir une longueur rigoureusement exacte, concordante avec les 1000 millimètres que contient le mètre terrestre? Cela se pouvait, et le professeur le savait, et c'est ce qui lui avait fait choisir 10 pièces de 5 francs sur les 20 qu'il avait apportées, 10 pièces de 2 francs et 20 pièces de 50 centimes. En effet, ayant établi rapidement le calcul suivant sur un bout de papier, il le présenta à ses auditeurs. 10 pièces de 5 francs à 0,037 mètres égale 0,37 mètres. 10 pièces de 2 francs à 0,027 mètres égale 0,27 mètres. 20 pièces de 50 centimes à 0,018 mètres égale 0,36 mètres. Total, 1 mètre. Très bien, cher professeur, dit Hector Servadac. Il ne nous reste maintenant plus qu'à juxtaposer ces 40 pièces de manière que la même ligne droite passe par leur centre, et nous aurons exactement la longueur du mètre terrestre. Nom d'un kabyle, s'écria Ben Zoof, c'est tout de même beau d'être savant. Il appelle cela être savant, répliqua Palmyrin Rosette en haussant les épaules. Les 10 pièces de 5 francs furent étalées à plat sur la table et placées les unes près des autres, de manière que leurs centres fussent reliés par la même ligne droite, puis les 10 pièces de 2 francs, puis les 20 pièces de 50 centimes. Une marque indiqua sur la table les deux extrémités de la ligne ainsi formée. « Messieurs, dit alors le professeur, voici la longueur exacte du mètre terrestre. » L'opération venait d'être faite avec une extrême précision. Ce mètre, au moyen d'un compas, fut divisé en 10 parties égales, ce qui donna les décimètres. Une tringle ayant été coupée à cette longueur, on la remit au mécanicien de la Dobryna. Celui-ci, homme très adroit, s'étant procuré un bloc de cette matière inconnue dont se composait le massif volcanique, n'eut plus qu'à le tailler, en donnant un décimètre carré à chacune des 6 faces pour obtenir un cube parfait. C'est ce qu'avait demandé Palmyrin Rosette. Le mètre était obtenu. Restait à obtenir exactement un poids d'un kilogramme. Cela était encore plus facile. En effet, les pièces françaises ont non seulement un calibre rigoureusement déterminé, mais un poids rigoureusement calculé. Et pour ne parler que de la pièce de 5 francs, elle pèse exactement 25 grammes, soit le poids de 5 pièces d'un franc, qui pèsent chacune 5 grammes. Il suffisait donc de grouper 40 pièces de 5 francs en argent pour avoir le poids d'un kilogramme. C'est ce que le capitaine Servadac et ses compagnons avaient tout d'abord compris. « Allons, allons, dit Ben Zoof, je vois bien que pour tout cela, il ne suffit pas d'être savant, il faut encore... Et quoi ?» demanda Hector Servadac. Il faut encore être riche. Et tous de rire à l'observation du brave Ben Zoof. Enfin, quelques heures plus tard, le décimètre cube de pierre était taillé avec une précision très suffisante, et le mécanicien le mettait entre les mains du professeur. Palmyrin Rosette, possédant un poids d'un kilogramme, un bloc d'un décimètre cube, et enfin un peson pour les peser successivement, était à même de calculer l'attraction, la masse et la densité de sa comète. « Messieurs, dit-il, au cas où vous ne le sauriez pas, ou tout au moins où vous ne le sauriez plus, je dois vous rappeler la célèbre loi de Newton, d'après laquelle l'attraction est en raison directe des masses et en raison inverse du carré des distances. Je vous prie de ne plus oublier ce principe. » Comme il professait le professeur. Mais aussi à quels élèves disciplinés il avait affaire. Voici, reprit-il, un groupe de 40 pièces de 5 francs réunies dans ce sac. Ce groupe pèserait exactement un kilogramme sur la terre. Donc, si, étant sur la terre, je le suspendais au crochet de ce peson, l'aiguille marquerait un kilogramme. Est-ce clair ? En parlant ainsi, Palmyrin Rosette ne cessait de regarder fixement Ben Zoof. En cela, il imitait Arago, lequel, pendant ses démonstrations, regardait toujours celui de ses auditeurs qui lui paraissait être le moins intelligent. Et lorsque cet auditeur lui semblait avoir compris, il était assuré de la clarté de sa démonstration. Ici, l'ordonnance du capitaine Servadac n'était pas inintelligent, tant s'en fallait, mais il était ignorant. Et cela revenait au même. Or, Ben Zoof ayant paru convaincu, le professeur continua sa démonstration en ces termes. « Eh bien, messieurs, ce groupe de 40 pièces, je vais le suspendre au crochet du peson, et comme j'opère sur Galia, nous allons savoir ce qu'il pèse sur Galia. » Le groupe fut attaché au crochet, l'aiguille du peson oscilla, s'arrêta et marqua sur le cercle gradué 133 grammes. Donc, reprit Palmyrin Rosette, ce qui pèse un kilogramme sur la Terre ne pèse que 133 grammes sur Galia, c'est-à-dire 7 fois moins environ. Est-ce clair ? Ben Zouf ayant fait un signe d'assentiment, le professeur reprit gravement sa démonstration. Et maintenant, vous comprenez que les résultats que je viens d'obtenir avec un peson auraient été nuls avec des balances ordinaires. En effet, les deux plateaux dans lesquels j'aurais mis, d'une part le groupe, de l'autre le poids d'un kilogramme, seraient restés en équilibre, puisque tous deux auraient été diminués d'une quantité précisément égale. Est-ce compris ?
Même par moi, répondit Ben Zouf.
Si donc, reprit le professeur, la pesanteur est 7 fois moindre ici que sur le globe terrestre, on doit en conclure que l'intensité de la pesanteur sur Gallia n'est que le 1/7 de ce qu'elle est à la surface de la Terre.
Parfait, répondit le capitaine Servadac, et nous voilà maintenant fixés sur ce point. Donc, cher professeur, passons à la masse.
Non, à la densité d'abord, répondit Palmyrin Rosette.
En effet, dit le lieutenant Procope, connaissant déjà le volume de Gallia, lorsque nous en connaîtrons la densité, la masse se déduira tout naturellement.
Le raisonnement du lieutenant était juste, et il n'y avait plus qu'à procéder au calcul de la densité de Gallia. C'est ce que fit le professeur. Il prit le bloc taillé dans le massif du volcan, bloc qui mesurait exactement 1 décimètre cube.
« Messieurs, dit-il, ce bloc est fait de cette matière inconnue que pendant votre voyage de circumnavigation, vous avez partout rencontré à la surface de Gallia. Il semble vraiment que ma comète ne soit composée que de cette substance. Le littoral, le mont volcanique, le territoire, au nord comme au midi, ne semblent constitués que par ce minéral, auquel votre ignorance en géologie ne vous a pas permis de donner un nom.
Oui, et nous voudrions bien savoir quelle est cette substance, dit Hector Servadac.
Je crois donc, reprit Palmyrin Rosette, avoir le droit de raisonner comme si Gallia était entièrement et uniquement composée de cette matière, jusque dans ses dernières profondeurs. Or, voici 1 décimètre cube de cette matière. Que pèserait-il sur la Terre ? Il pèserait exactement le poids qu'il a sur Gallia, multiplié par 7, puisque, je le répète, l'attraction est 7 fois moindre sur ma comète que sur le globe terrestre. Avez-vous compris, vous qui me regardez avec vos yeux ronds ?
Ceci s'adressait à Ben Zouf.
Non, répondit Ben Zouf.
Eh bien, je ne perdrai pas mon temps à vous faire comprendre. Ces messieurs ont compris et cela suffit.
Quel ours ! Murmura Ben Zouf.
Pesons donc ce bloc, dit le professeur. C'est comme si je mettais la comète au crochet de mon peson. »
Le bloc fut suspendu au peson et l'aiguille indiqua sur le cercle 1 kg 430 g.
1 kg 430 g multiplié par 7, s'écria Palmyrin Rosette, donne à peu près 10 kg.
Donc, la densité de la Terre étant 5 environ, la densité de Gallia est double de celle de la Terre, puisqu'elle vaut 10.
Sans cette circonstance, la pesanteur, au lieu d'être 1/7 de celle de la Terre sur ma comète, n'eût été que 1/15.
En prononçant ces paroles, le professeur pensait avoir droit d'être fier. Si la Terre l'emportait en volume, sa comète l'emportait en densité, et vraiment, il n'eût pas troqué l'une pour l'autre.
Ainsi donc, à ce moment, le diamètre, la circonférence, la surface, le volume, la densité de Gallia et l'intensité de la pesanteur à sa surface étaient connus. Restait à calculer sa masse, autrement dit son poids. Ce calcul fut rapidement établi. En effet, puisqu'un décimètre cube de la matière gallienne eût pesé 10 kg dans un pesage terrestre, Gallia pesait autant de fois 10 kg que son volume contenait de décimètres cubes. Or, ce volume, on le sait, était de 211 433 460 km³ et renfermait un nombre de décimètres représenté par 21 chiffres, soit 211 quintillions, 433 quatrillions, 460 trillions.
Ce même nombre donnait donc en kilogrammes terrestres la masse ou le poids de Galia. Il était donc inférieur à celui du globe terrestre de 4 sextillions, 788 quintillions, 666 quatrillions, 540 trillions de kilogrammes. Mais que pèse donc la Terre ? Demanda Ben Zoof, véritablement abasourdi par ces milliards de millions. « Et d'abord, sais-tu ce qu'est un milliard ?» lui demanda le capitaine Servadac. « Vaguement, mon capitaine. »« Eh bien, sache donc que depuis la naissance de Jésus-Christ, il ne s'est pas encore écoulé un milliard de minutes, et que si tu avais dû un milliard, en donnant un franc toutes les minutes depuis cette époque, tu n'aurais pas encore fini de payer. »«
Un franc par minute !» s'écria Ben Zoof. « Mais j'aurais été ruiné avant un quart d'heure !»
Enfin, que pèse la Terre ? 5875 sextillions de kilogrammes, répondit le lieutenant Procope, un nombre formé de 25 chiffres. Et la Lune ? 72 sextillions de kilogrammes.
Seulement, répondit Ben Zoof.
Et le Soleil ? 2 nonillons, répondit le professeur, un nombre qui comprend 31 chiffres.
« Deux nonillons !» s'écria Ben Zoof. « À quelques grammes près, sans doute. »
Palmyrin Rosette commença à regarder Ben Zoof de travers. « Ainsi donc, dit le capitaine Servadac pour conclure, tout objet pèse 7 fois moins à la surface de Galia qu'à la surface de la Terre. »« Oui, répondit le professeur, et par suite, nos forces musculaires se trouvent sextuplées. » Un fort de la Halle, qui porte 100 kg sur la Terre, en porterait 700 sur Galia. Et voilà pourquoi nous sautons 7 fois plus haut, dit Ben Zoof.
Sans doute, répondit le lieutenant Procope.
Et si la masse de Galia eût été moindre, Ben Zoof, vous auriez sauté plus haut encore.
Et même par-dessus la butte Montmartre,
ajouta le professeur en clignant de l'œil de manière à mettre Ben Zoof hors de lui.
Et sur les autres astres, quelle est donc l'intensité de la pesanteur ? Demanda Hector Servadac.
Vous l'avez oublié ! S'écria le professeur. Au fait, vous n'avez jamais été qu'un assez mauvais élève.
Je l'avoue à ma honte, répondit le capitaine Servadac.
Eh bien, la Terre étant tin, l'attraction sur la Lune est de 0,16, sur Jupiter 2,45. Sur Mars, 0,50, sur Mercure, 1,15, sur Vénus, 0,92, presque égale à celle de la Terre, sur le Soleil, 2,45. Là, un kilogramme terrestre en pèse 28. Aussi, ajouta le lieutenant Procope, sur le Soleil, un homme constitué comme nous le sommes ne se relèverait-il que difficilement s'il venait à tomber ? Et un boulet de canon n'irait pas à plus de quelques dizaines de mètres.
« Un bon champ de bataille pour les poltrons, » dit Ben Zoof.
« Mais non, » répliqua le capitaine Servadac, « puisqu'il serait trop lourd pour se sauver. »«
Eh bien, » dit Ben Zoof, « puisque nous aurions été plus forts, puisque nous aurions sauté plus haut, je regrette que Galia ne soit pas plus petite qu'elle ne l'est. Il est vrai que c'eût été difficile. »
Cette proposition ne pouvait que blesser l'amour-propre de Palmyrin Rosette, propriétaire de la dite Galia. Aussi, admonestant Ben Zoof,
« Voyez-vous cela ! S'écria-t-il. Est-ce que la tête de cet ignorant n'est pas assez légère déjà ? Qu'il y prenne garde ou un coup de vent l'emportera quelque jour. »
« Bon, répondit Ben Zoof, je la tiendrai à deux mains. »
Palmyrin Rosette, voyant qu'il n'aurait pas le dernier mot avec l'entêté Ben Zoof, allait se retirer lorsque le capitaine l'arrêta d'un geste.
« Pardon, cher professeur, dit-il, une seule question. Est-ce que vous ne savez pas quelle est cette substance dont Galia est faite ?»«
Peut-être, répondit Palmyrin Rosette. La nature de cette matière, sa densité qui vaut 10, j'oserais affirmer...
Ah, si cela est, j'ai de quoi confondre ce Ben Zoof. Qu'il ose donc comparer sa butte avec ma comète.
Et qu'oseriez-vous affirmer ? Demanda le capitaine Servadac.
Que cette substance, reprit le professeur en scandant chaque syllabe de sa phrase,
que cette substance n'est rien moins qu'un tellurure.
Peu, un tellurure ! S'écria Ben Zoof.
Un tellurure d'or, composé qui se trouve fréquemment sur Terre. Et dans celui-ci, s'il y a 70% de tellure, j'estime qu'il y a 30% d'or.
30% ? S'écria Hector Servadac.
Ce qui, en additionnant les pesanteurs spécifiques de ces deux corps, devient 10 au total, soit précisément le chiffre qui représente la densité de Galia.
Une comète en or ? Répétait le capitaine Servadac.
Le célèbre Maupertuis pensait que cela était fort possible, et Galia lui donne raison.
Mais alors, dit le comte Timachef, si Galia tombe sur le globe terrestre, elle va en changer toutes les conditions monétaires, puisqu'il n'y a actuellement que 29 milliards 400 millions d'or en circulation.
En effet, répondit Palmyrin Rosette, et puisque ce bloc de tellurure d'or qui nous emporte pèse en poids terrestre, 211 quintillions, 433 quatrillions, 460 trillions de kilogrammes, c'est environ 71 quintillions d'or qu'il apportera à la Terre. Or, à 3500 francs le kilogramme, cela fait en nombre rond 246 sextillions de francs, un nombre composé de 24 chiffres.
Et ce jour-là, répondit Hector Servadac, la valeur de l'or tombera à rien et il méritera plus que jamais la qualification de vil métal.
Le professeur n'avait pas entendu cette observation. Il était sorti majestueusement sur sa dernière réponse pour remonter à son observatoire.
Mais, demanda alors Ben Zoof, à quoi servent tous ces calculs que ce savant hargneux vient d'exécuter comme des tours de passe-passe ?
À rien, répondit le capitaine Servadac. Et c'est précisément ce qui en fait le charme.